On se tutoie sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Plein de mystères, plein d'émotions. On va essayer de retracer un petit peu ta vie, ta carrière, mais tout en chanson, tout en musique, tout en finesse, bien évidemment. Ça commence une histoire de dingue. 1985, on va se prendre une petite claque avec ça.
Jalouse.
Allez, ça y est, c'est la grimace qui commence.
Non. Non. C'est les débuts, donc c'est la grimace un peu...
Nostalgique.
Voilà, écoute, c'était une belle expérience.
Une rencontre de fou, parce que je m'aperçois quand même que c'est Gérard Depardieu qui produit et Julie Depardieu qui écrit, c'est ça ?
Elisabeth.
Ah oui, Elisabeth, pardon, excuse-moi, ouais,
c'est sa femme
de l'époque. Ouais.
À l'époque. Ouais, et lui, toujours intéressé par diverses choses, et là, ben, il entend la voix d'une petite de l'Est, et il dit, ok, ben, on va financer ça, parce que on va l'aider à avancer dans la musique.
C'était du feel-good, première rencontre avec Depardieu, ça doit être quand même un petit choc émotionnel. Feel-good, tu fais une grimace, non ?
Non, ben, écoute, je l'ai rencontré pourquoi ? Je l'ai rencontré grâce à François Bernheim, qui était venu dans l'Est quand je chantais là-bas, et qui, lui, était un proche des Depardieu.
Ouais.
Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc la première fois que j'ai rencontré Depardieu, bon bah c'est sûr, déjà je parlais pas beaucoup, donc là bon bah je pense que ouais, oui, non, il y avait pas grand chose.
Ouais, intimidé quoi, de toute manière.
Ouais, tout à fait. Et
ouais, parce que là on est encore adolescente, on est d'accord quand c'est jeune.
On est adolescente, mais une adolescente. Tu vois, qui n'est jamais sortie de chez elle, quoi, tu vois, qui était proche de ses parents.
Ouais.
Je me souviens, en plus, un jour, j'avais emmené mon papa et je lui expliquais, parce qu'on ne sait pas forcément, je ne veux pas critiquer, mais il ne savait pas forcément qui était Gérard Depardieu.
Bah quoi. Oui, bah ouais, on n'avait pas la référence.
Et mon père dit, mais attends, qu'il fasse déjà 32 ans de mine, et puis, voilà, parce que je disais,
Papa mineur.
Papa mineur de fond.
Bien sûr.
Fier de l'être, en tout cas, comme tous les mineurs d'ailleurs. Fatigué, mais pour rien au monde, ils ont envie de changer leur métier.
Bien sûr.
Parce que c'est la région, parce que c'est comme ça. Et forcément, nous, on apprend, on se plaint pas, on est volontaire, on vient d'un milieu modeste, ça apprend la vie. C'est chouette, quelque part.
Et quand papa a une fille qui dit papa, je veux chanter, je veux jouer cabaret, papa, il dit oui, parce que 7 enfants, c'est ça, papa et maman ?
7 enfants, ouais. Ouais. Moi la dernière.
Ouais.
J'ai commencé par les concours de chant.
Ouais.
Mon père, non, plutôt fier.
Ouais.
Ma fille.
D'accord.
J'avais ses yeux et tout, il disait toujours Patricia casse la classe.
C'est bien
son grand truc à lui.
Ouais.
Donc, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais ouais. C'est lui, c'était
son
truc.
Non, mais c'est super mignon, c'est la fierté du papa, simplement.
Allez, viens au bistrot. Je dis ouais, je viens, mais bon, je dis bonjour à tout le monde, mais pas la bise. Mais dès que j'arrive, c'est vous pouvez l'embrasser, c'est ma fille. Donc, bon, tu vois, là,
non,
vraiment, c'est vraiment la simplicité. Au plus profond, quoi.
Ouais.
Et maman, elle m'accompagnait le samedi soir quand je chantais. Ça la faisait sortir un petit peu aussi. Quand t'as eu 7 enfants, c'est pas évident.
Bien sûr. Il y avait quand même la fierté, puis c'était une petite bulle d'air qui s'en allait quelque part, parce que le quotidien devait être pas évident. C'était à Forbach, c'est ça ?
C'était à Forbach, enfin à Styrin-Vendel. Je suis né à Forbach.
Ouais.
J'ai grandi à Styrin-Vendel.
Ouais, attention, soyons hyper
clairs. Attention, soyons hyper clairs.
Dans la série, on se fâche avec les 3/4 de la France.
Voilà, déjà. Déjà, on va se fâcher avec toute la France, ouais. Là, si je dis. Donc, j'ai grandi là-bas et la famille, les frères et sœurs étaient contents parce que ça faisait un peu. Alors, c'était difficile et en même temps, avec les années qui passent, j'avais jamais l'impression de manquer de quoi que ce soit parce qu'il y avait l'amour, il y avait.
À la base, une famille quand même très unie, quoi.
Ouais. Qui s'est un peu désunie, forcément. Parce que chacun fait sa vie.
Bien sûr.
Hein, chacun a des enfants, etc. Donc c'est déjà un peu plus compliqué.
Ouais, et puis maman qui s'en va très tôt aussi, quand même.
Ouais.
Et donc
c'est vrai que le lien maman, même papa par la suite,
bien sûr.
Ça, malheureusement, ça casse un peu des choses. Et moi, il y a aussi, géographiquement, je suis un peu plus loin. Il y a cet accent allemand, etc., qui pour moi était hyper compliqué au début. Voilà, parce que c'était. Je me sentais pas forcément à ma place.
Voire même différente.
Ouais, différente.
Limite étrangère, non ?
Ouais, parce qu'aujourd'hui, je prendrais plutôt, tu vois, comme quoi on grandit, comme un plus. Alors qu'à l'époque, je me disais, mon Dieu, on me regarde du genre, c'est qui celle-là, elle sort d'où. Mais c'est pas grave. Hein. Après, tu sais, quand tu fais le tour du monde, enfin, tour du monde, c'est un peu exagéré. Mais
oui, mais presque, quand même, on va en parler après.
Voilà, j'ai fait pas mal de pays. Et quand tu dis qu'on apprend le français grâce à mes chansons, bah, tu te dis, bah, moi, waouh. Wow. Moi qui disais toujours que, tu vois, que j'avais un vocabulaire simple, etc. Mais bon, tu vois, comme quoi, c'est l'émotion des mots, c'est la façon de les prononcer, c'est l'authenticité des mots. Et ça, malheureusement, bah, c'est un peu resté dans les frères et sœurs. Ouais. C'est-à-dire que quand moi, j'arrivais là-bas, bah, eux, ils se sentaient un peu, ouais, bon, bah, elle est à Paris,
oui, c'est ça.
Tu vois. Mais bon, après, on s'entend très bien. Mmh. À mon goût, on se voit pas assez, mais on s'entend très bien.
La vie qui va très vite. Et puis, la vie s'accélère en 1988, parce que la demoiselle, elle chante. Et alors, elle chante bien.
Soyez pas trop jaloux, mademoiselle bois du rouge.
Et puis alors, sur 1988, sur Mademoiselle chante le blues, mon mec à moi, d'Allemagne, quand Jimmy dit what I say, elle voulait jouer cabaret. Vous l'avez bien compris, c'est Patricia Cass qui est avec nous ce soir. Et ben, son mec, elle, pendant une petite heure, c'est moi. Et j'en suis hyper fier. Je suis très très heureux sur Nosta de recevoir Patricia.
Merci.
C'est vrai, c'est hyper émouvant pour moi.
Oh bah c'est gentil, merci.
On va essayer de continuer à percer le mystère. C'était 1988, on se laisse bercer sur la route du week-end. Soyez prudents. Mon mec à moi.
Yes.
Il y en a eu quelques-uns qui sont passés, qui ont fait coucou sur la route. On va parler des grandes rencontres de ta vie, parce qu'il y en a eu beaucoup.
Tu me fais peur quand tu dis
non,
ça.
Non, mais c'est...
Attends, tu sais, les gens vont dire, dis donc, c'est qui, c'est quoi celle-là?
Non, mais excuse-moi, t'as eu une carrière de dingue.
D'accord.
Tu rencontres des gens de dingue, on va reparler de Goldman, de Johnny Hallyday, on va reparler d'Obispo. Tu fais des rencontres de folie dans ta vie. Je vais pas me permettre de percer le mystère. Patricia Cass, loin de là. En revanche, on était en
T'inquiète pas, la presse, elle est là pour le faire. Hein.
Ouais.
Même des fois, j'en apprends moi-même des choses.
Oui. Hein. Tiens, qu'est-ce qui se passe?
Ben oui. Ah, tiens, ah bon.
Ouais, ça, c'est quand même assez extraordinaire. Tu es réseaux sociaux ou pas, puisqu'on en parle?
Bah, non, pas trop.
Non. Pour les infos un petit peu
pour les infos pour être à jour dans ce qui se passe. Je fais mon Instagram, moi.
Ouais.
Ça, ouais.
Ouais, chacun tient de toute manière.
Et puis après,
les community managers, c'est compliqué. Ils n'ont pas notre ADN.
Ouais. Puis tu sais, ça dépend. Moi, je crois qu'il y a des messages qu'on a envie de donner et d'autres. Voilà, de montrer ce qu'on mange ou je sais pas, moi ça me...
Patricia Cass, tu mets la recette de la choucroute, tu cartonnes.
Tu crois?
Ah, mais
c'est plutôt la quiche Lorraine, moi.
Ouais, mais c'est pas grave, tout ce qui vient de l'Est, il va.
D'accord.
Il y a aucun souci.
Écoute,
de la vourse.
Je vais essayer, mais...
Tu ferais partie de la team Bretzel, tu vois ce que je veux dire?
En plus j'adore ça.
Non, mais tu ferais un carton plein. Quand je parlais des hommes qui passent, bah oui, c'était 1990, évidemment. Alors les hommes qui passent,
ils sont un peu sauvages ceux-là. Hein.
Ouais.
Parce que les hommes qui passent, c'est quand même un peu une prostituée qui en a marre qu'on lui laisse l'argent et qu'on l'emmène pas plus pour des sentiments.
D'accord.
Donc là, on est quand même.
Elle est venue d'où cette chanson?
Elle est venue d'où? Barbelivien, Bernheim. Je sais pas.
Et quand on te la propose?
Bah, tu sais, c'est peut-être le côté cabaret. Qui faisait ça. Moi, ça m'a pas choqué. En plus, les gens retiennent de cette chanson le côté maman, tu vois. Donc, on n'a pas forcément fait le lien avec cette femme qui pleure et qui dit « Non, mais attends, moi, je veux pas que ça. Je veux aussi qu'on m'emmène.
»
Alors, bien sûr, elle n'est absolument pas autobiographique, je le confirme.
Je tiens à préciser pour la presse.
Je préfère préciser, tu vois.
Mais il y a le pendant de « Je suis un homo » comme ils disent aussi, non? Puisque
ouais,
je rebondis sur ce que tu dis.
Tu sais, moi, j'ai jamais eu peur de dire les choses, de faire des choses. Alors que j'avais peut-être une frustration sur mon vocabulaire qui était un peu simple, etc. Mais j'étais quand même... j'avais pas peur, quoi, tu vois, de chanter ce genre de thème, parce que on se sert de certaines émotions pour interpréter des choses qui sont pas forcément autobiographiques. On se sert de ce qu'on a vécu dans la vie, mais même si c'est différent. Voilà.
La chanson t'empêche d'avoir cette pudeur et de te dévoiler un petit peu plus tel que tu aurais aimé être quelque part ou pas?
Non. Pas forcément, je crois que là, j'ai pas trop... Tu sais, en plus, j'étais dans une période un peu difficile pour moi, parce qu'il y a eu la maladie de maman, la perte de maman. Je sais pas si on se pose ce genre de questions. On veut avancer, on veut...
C'est assez intéressant parce que toutes les personnes... des personnalités que je reçois, que ce soit Marc Lavoine ou autre, on parle beaucoup de nos mamans. Alors c'est marrant parce que tu vois, sur mon téléphone, l'écran de veille, c'est ma maman à moi que j'ai perdu il y a quelques années. Ça laisse une trace de dingue. Même Marc Lavoine a parlé de son papa, mais il a parlé de son dernier bouquin de sa maman. Ça laisse une trace indélébile en toi. Et apparemment,
J'étais jeune, hein, j'avais 21 ans à peine.
Ouais.
Avec 3 ans de à ses côtés dans la douleur. Alors après, papa était important aussi. Maintenant, peut-être qu'on parle plus de cette première douleur, de cette première... Parce que après, bizarrement, on connaît cette douleur, tu vois. Mais quand ça te tombe dessus et que t'as 21 ans, bah, c'est difficile. En plus, j'étais très fière maman. Hein.
Ouais.
Mais mon papa, j'avais adoré. Alors peut-être que j'ai moins parlé de lui, mais pas parce que c'était...
Tu l'aimais moins.
Non, pas du tout. Mais c'est parce que tout d'un coup, il y a une douleur qui t'est familière, qui arrive. Pareil pour mon frère. Hein. Et puis, avec le temps qui passe, on gère mieux aussi certaines émotions. Mais c'est dur. C'est très difficile. Et puis, ça te suit toute une vie, dans tes choix, dans tes émotions, alors après, bon, ça m'a pris quand même quelques années, à me dire, écoute, je pense que là, ce serait bien aussi que tu fasses les choses par rapport à toi-même, quoi.
Bien sûr.
Parce que très souvent, je me disais, ben, elle aurait aimé ça, elle aurait choisi ça, voilà. Donc, elle m'a guidée. Et à un moment, il fallait pas lâcher, mais se dire, ok, maintenant, il faut quand même un moment vivre pour ouais, soi. Quoi.
Il faut tourner la page, il faut apprivoiser cette douleur au bout d'un moment. Et puis, dans les hommes qui passent, il y en a un qui s'arrête un petit peu, qui s'appelle Jean-Jacques Goldman, et qui te dit que tu es belle. Rencontre de Goldman, quand même. Hein.
Ah bah oui. Belle rencontre.
Ouais.
Grande chanson.
Ouais.
Chanson très importante dans mon répertoire, hein, c'est clair.
T'as fait un déclic à ce moment-là, non? C'est-à-dire que c'est une chanson miroir ou pas?
Alors, est-ce que c'est une chanson miroir? Pas forcément, parce que je vais encore les décevoir tous là.
Mais j'adore. Les décevoir une bonne fois pour toutes.
Non, mais il faut pas les décevoir.
Si.
Parce qu'on retient, il me dit que je suis belle, mais c'est pauvre de moi, j'y crois.
Ouais.
Donc là où c'est décevant, c'est que tu peux pas savoir le nombre de personnes qui m'ont envoyé c'est la musique de leur mariage.
Ouais.
Donc là, pauvre de moi, j'y crois, c'est pas bon quoi.
Ouais, parce que c'est pas la bonne.
Mais tu vois, donc non, c'est sûr que on retient ce qu'on a envie de retenir. Et il me dit que je suis belle, ben voilà, ça te donne le smile, ça te donne, non, t'es bien, et c'est une grande chanson, c'est. Je sais pas, moi, tu sais, j'étais pas dans ce truc, je rencontre du beau monde, Goldman, etc. Je sais pas, j'étais un peu dans ma bulle, et je me rendais pas compte, forcément.
Ouais, mais comme Depardieu, quand papa te dit, mais
exactement.
Bon, enfin, quand il aura fait 30 ans dans la mine.
Exactement.
Ouais, exactement. Alors après, tu entres dans la lumière, on est en 93, ça aussi, c'est quelque chose de très fort.
Entrer dans la lumière.
Que des chansons à texte, que des chansons à message.
Un message qui était entré dans la lumière, donc parce que j'aimais le contact avec le public, j'aimais monter sur scène. Ensuite, ça c'est la beauté de ces textes, c'est que pour les gens, il y avait la naissance aussi, la mort, parce que tu entres dans la lumière quand tu quittes, tu entres dans la lumière quand tu arrives dans un monde. Donc c'est
le monde de l'éphémère aussi.
C'est une chanson qui est assez touchante sur scène parce que tu as, quand tu vois les gens, t'en as qui pleurent et d'autres qui ont le sourire parce que chacun, il trouve son histoire dans
cette
chanson. Voilà.
Bah, c'est le but d'une chanson.
Ouais, mais il y en a qui marquent plus que d'autres par rapport à ça.
Ouais. Mais à chaque fois, il y a un message qui est hyper fort. Et alors après, bon, on passe un petit peu les années, et j'ai mis le doigt sur quelque chose quand j'ai peur de tout. Là, franchement et sincèrement, quand j'ai entendu ça, parce que ça devient quand même une bande originale de film de folie, mais ça commence en français.
Vivre quand tout.
Et ça devient quelque chose de fou, reprise de Sugar Babes, quelque chose comme ça. Et c'est la bande originale du film de Love Actually.
Exactement.
Non mais la base c'est toi.
À la base, c'est moi, tout à fait.
Non, mais il faut le dire aux auditeurs.
Bah oui, bah t'inquiète pas que souvent je l'ai dit, je dis non, c'est moi d'abord, c'est moi.
Ouais.
C'est ma chanson.
Non, mais c'est fou ça.
Bah ouais. Bon, elle a eu plus de succès avec les Sugar Babes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Mais forcément, il y a la langue, il y a le fait que ce soit dans un film. Mais bon, on aime partager, donc c'est pas grave.
Oui, c'est ça, oui, j'ai bien dit-elle, avec un petit goût amer quand même dans la bouche. Elle va reprendre un café. Là, moi, ce que j'aime bien chez la Patricia Cass, c'est ce côté mystérieux où, comme je l'ai dit dans mon introduction, je voudrais la connaître.
Je voudrais la connaître. Savoir comment elle est.
J'adore ça.
Bah ouais. D'ailleurs, juste pour revenir sur Quand j'ai peur de tout, c'est la première fois, je crois, que Jean-Jacques Goldman a écrit un texte sans musique.
D'accord.
Parce que c'est lui qui a fait la musique sur ce texte, en fait.
D'accord.
Parce qu'il adorait la chanson. Donc, je voudrais la connaître, ouais. Jean-Jacques, encore, ben, disait que... qu'il n'y avait, alors encore une fois, ce sont ces mots, il n'y avait que moi qui pouvais passer un message comme ça.
Ouais.
Parce que les gens vont s'identifier, les femmes vont s'identifier, les hommes aussi, c'est un message fort.
Quel est-il ?
De la douleur qu'une femme a pu endurer, et puis le mec, parce qu'on parlait de mon mec à moi, mais bon, c'est pas grave, mais tu sais, ça a beaucoup touché les hommes, quoi, parce qu'ils se sont dit, j'ai été salaud à ce point, quoi, j'ai fait ça.
Non mais 2025 aujourd'hui, c'est une chanson qui est totalement d'actualité.
Ouais. Bah, là, c'est quand même elle qui veut.
Mais qui monte au
créneau. Elle se fait quand même du mal pour connaître la vérité, quelque part.
Ouais.
Parce qu'elle connaît son parfum, et elle a envie de la connaître, cette femme. Mais ça veut dire que c'est une femme de caractère. Peut-être que je réagirais pareil, sûrement d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui. À l'époque, quand je l'ai chantée, je me suis dit, et j'allais chercher mes émotions peut-être ailleurs. Mais là. Je pense qu'effectivement, je ferai partie de ces femmes-là.
Apparemment, dans l'actualité, ça sent bon quelques albums de reprise. Elle va être dedans, dans cet album. On va parler de ton actualité après, bien évidemment, outre The Voice.
Ah bah oui, parce que ce sont... tu peux pas ne pas...
On est d'accord.
Ben oui.
Non, mais elle est totalement...
Après, j'ai pu la rechanter il n'y a pas très très longtemps, dans une version un peu différente. Ce qui est toujours très difficile, parce que quand tu retouches les chansons, les gens se perdent un peu. Ils se disent, ouais, mais nous, on a aimé comme ça. Et c'est difficile pour un artiste, parce qu'il y a des sons qui nous paraissent un peu, trop loin. On a envie d'être dans ce qui se fait aujourd'hui.
Des artistes qui le font très bien. Je veux dire, Julien Doré reprend plein de chansons en duo avec des gens. Il fait un grand
mais
écart facial.
Ce sont pas forcément les siennes. Hein.
Ouais, mais il le fait quand même.
Ouais.
Mais... toi, c'est le côté authentique de Forbach, de papa. Une fois qu'il aura fait 30 ans, de toute manière, il verra bien.
Je reviendrai. Non, mais j'ai fait une version et franchement, topissime. Mais bon, ce n'est que mon avis. Quand je retrouverai l'envie de chanter, je la chanterai et puis on l'entendra.
Tu vas la retrouver, cette envie de chanter ?
Bah écoute, je sais pas.
Il nous tarde. Il nous tarde.
Bah ouais. Moi aussi, quelque part, mais bon, je vais voir des concerts. Je me dis, tiens, attends, toi qui aimes la scène,
j'aimerais faire ça.
Mais moi je ferais ça, pourquoi il fait pas ça? Pourquoi il va pas chercher les gens?
Il va falloir
à ce moment-là
que tu te boostes un petit peu.
Ouais, je sais, il faut que je me donne un coup de pied dans le derrière.
Ouais. Moi je me permettrai pas, j'ai quand même beaucoup trop de respect.
Vas-y.
Non, mais ça va pas tarder. Alors, les hommes qui passent, tu vois, c'était pas du tout méchant. Il y en a un qui passe qui s'appelle Obispo, que j'ai reçu ici, qui m'a même parlé de toi d'ailleurs, et ma liberté contre la tienne, c'est lui.
Ma liberté contre la tienne.
À chaque fois, il y a des messages de dingue dans tes chansons. Tu les interprètes, on dirait une comédienne qui chante quelque part.
Bah, c'est gentil ce que tu dis. Tu sais, moi, je ne m'en rends pas forcément compte.
Mais parce moi,
que
c'est
comme,
compte.
C'est comme quand je disais au début, quand on entend sa voix dans un casque, ça fait toujours un peu bizarre. Quoi.
Ouais.
Donc moi, ça me fait bizarre aussi. Maintenant, Ma Liberté contre la tienne, je me souviens à l'époque, il y a eu cet album... il y avait un album de Madonna que j'avais adoré, où elle avait les cheveux noirs, punaise, je sais plus comment il s'appelle. Mais, et je voulais cette ambiance, j'adorais ça.
Mm-hmm. Voilà. Mais Madonna, elle a pris quand même des risques de dingue dans sa vie.
Ouais, mais là, bon, ça a aussi fait d'elle ce qu'elle était. Après, c'est devenu un peu plus triste, tu vois, parce que c'est difficile de...
Par les excès
Par les excès, peut-être...
De tout genre.
Peut-être ça dépend aussi de quel style d'artiste on est. Mmh. Je veux dire, c'est une, pour moi, d'aller la voir et que qu'elle soit en playback ou pas, quelque part, moi, ça, je m'en foutais. Moi, j'allais voir une personnalité,
une
un
icône,
charisme, une icône,
une
nana qui danse avec un show qui va... Après, avec le temps qui passe, si elle a plus tout ça, ça devient compliqué, quoi.
Ouais, elle a perdu son pétillant et de sa fraîcheur. Elle est rentrée dans un monde de dingue. Donc, il y a Obispo, après il y a du live, après il y a du piano bar. If You Go Away, au début j'ai cru que c'était Paul Young. Every time you go away, you take a little piece.
J'ai chanté avec lui d'ailleurs.
Avec Paul Young.
Ouais, on avait fait un duo pour une télé. Je pense que ce duo existe d'ailleurs.
D'accord, c'était sur Every Time You Go Away, non?
Tu vois.
Non, c'est pas grave. J'ai pas envie de te piéger.
Non,
mais
non,
toi,
non.
En revanche, c'était If You Go Away. Ne me quitte pas.
Très différent de la version
de Zachary.
Hein, ça, c'est clair. C'était un peu la BO d'un film dans lequel j'avais joué de Claude Lelouch. Et l'idée, c'était de reprendre des classiques en anglais, mais dans un mood un peu lounge, un mood un peu. Et c'était intéressant, c'était très intéressant de faire ça.
Alors ça continue, quand je parle des hommes tout à l'heure, le sexe fort, mais où sont les hommes? Alors je sais pas, c'était il y a une vingtaine d'années, je me demandais s'il y avait eu un message.
Où sont les hommes? Enfin, le message, c'est que voilà, j'étais dans une période où je voulais être un petit peu plus entre guillemets rock. Donc j'avais pris des gens qui savaient écrire ça. Je sais pas. Je... D'ailleurs, le look, tu vois, c'était mitigé. La nana, elle débarque avec ses cheveux rasés sur le côté, sa petite boucle d'oreille et tout. Bah, il faut se faire plaisir aussi, tu sais. C'est ça aussi la musique.
Ah ben oui, c'est
ça. Vois, si t'as l'impression d'aller au bureau tous les matins, ça devient compliqué, quoi. Et donc du coup, t'es enfin, j'ai rien contre les gens qui ont mon bureau, mais ça manque un peu de, tu vois, de piquant, de réel,
de surprise.
Quoi,
si
tu
te,
voilà.
Ouais, il faut se surprendre.
Voilà.
Et puis dans la série Rock and Roll, eh ben dis donc, on continue avec Dame Cass qui rencontre encore quelqu'un d'autre, Monsieur Johnny Hallyday. Elle vient de là.
Ah bah oui.
Elle vient du blues.
Il avait toujours dit de très jolies choses me concernant.
Ouais.
Et on avait chanté ensemble sur un plateau. Et d'ailleurs à l'Olympia. J'étais allé le rejoindre à l'Olympia. C'est vrai, on avait fait ça.
On continue à faire des expériences totalement insolites. On arrive sur une année 2008.
Qu'est-ce qu'il fallait le faire?
S'il fallait le faire, Eurovision.
Ah ouais. Ouais.
On représente la France donc
s'il fallait
en
le
2009.
Faire, je l'ai fait.
D'accord, t'es contente ou pas?
Bah,
8e au classement général.
Ouais.
C'était à refaire.
C'était différent à l'époque. Il y avait que le vote d'un jury. Il n'y avait pas le vote du public. Peut-être que j'aurais pu avoir un peu plus de, tu vois, de place si le public avait pu voter. Je ne sais pas. Mais bon, tu sais, on n'y va pas pour pas gagner. Après 8, je ne sais pas. Moi, ça m'avait. C'était une période difficile dans ma vie. Je sais pas, j'avais l'impression que la France entière m'en voulait.
À cause de quoi?
Bah parce que j'ai pas ramené le trophée. Je sais pas, ça m'a. C'était une période très difficile pour moi.
C'est étonnant parce que l'année dernière, donc Slim, mon pote Slimane, arrive 4e. Là, il y a Louane qui se lance dans la bataille.
Mais ça, alors, le côté positif de ça, encore une fois, sans vouloir, le fait que j'ai accepté de faire ça a ouvert. une image un peu différente sur ce qu'est ou ce qu'a été l'Eurovision. Après moi, beaucoup de d'artistes connus ont commencé à...
C'est toi qui as ouvert la porte.
Quelque part. Quelque part. Donc ça, je suis contente pour ça. Voilà. Ouais. Et je crois qu'il y avait beaucoup de vues en plus. Je ne sais pas si c'est toujours encore le cas.
Quand il y a un Français qui est connu obligatoirement, à l'époque, il y avait Patrick Fiori peut-être avant toi, mais qui n'était pas aussi connu que toi, qui était une voix extraordinaire.
Ouais, mais tu sais, on a quand même cette image au début où on se dit, ouais, c'est peu ragard.
Mais tu t'es mouillé quand même.
Tu vois, je suis allée, j'avais peur. Waouh, c'était l'horreur. Mais alors que j'en avais fait de la scène avant.
Bien sûr, mais tu t'es réfugié après en disant déception.
Gros, ouais. Quand je marchais dans la rue, je sais pas, quand les gens me regardaient, je me disais, waouh, encore quelqu'un qui se dit, purée, celle-là, elle a pas ramené la. Je sais pas,
je me suis
fait une, tu vois, un film.
Ouais, t'es partie toute seule
Donc si c'était à refaire, je te dirais non. Mais.
D'accord.
En plus, la chanson était bien, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
D'accord. Dans tous les cas, nous, on est évidemment derrière Louane, notre copine Louane.
Ah, j'aime bien Louane, elle écrit bien, elle chante bien, j'aime bien ses émotions.
Et puis, c'est une petite fiancée de tous les Français aussi, comme tu as pu l'être.
Et qui a vécu des trucs difficiles aussi, hein, au début de sa carrière.
Je te confirme. Ouais. Et puis après, elle a effacé un petit peu tout ça avec la famille Bélier.
C'est pas évident à son âge. Hein.
Ah, ça, je te confirme. Papa, maman, tout le monde. Ce sont des messages forts. Alors, tu continues après, carrément, on y va. On s'attaque à du lourd, voire même du très lourd. Je m'aperçois même que tu piaffes.
Je renierai ma patrie.
Tu t'attaques à du lourd, hein, c'est le cas de le dire.
Je m'attaque à du très lourd, oui.
Ouais.
Et d'une façon très différente, parce que quand on m'a parlé éventuellement si j'avais envie d'aller vers un projet de cachant de Piaf, pour moi, il y avait une évidence, mais... je voulais que ce soit différent, c'est-à-dire que je ne voulais pas rentrer dans la facilité, reprendre. Alors peut-être que les gens auraient préféré, je ne sais pas. Mais pour moi, c'était avant tout un spectacle, et un spectacle contemporain, dans lequel on va, à travers des chansons, accompagner sa vie qui était dure, quoi, qui était... donc à travers, je me souviens, j'avais fait des cours de théâtre, des cours de danse contemporaine, parce que je voulais raconter l'histoire. Alors c'est pour moi, c'était plus une scène qu'un album. Mais après, bien sûr, les producteurs me disaient, il faut bien que les gens aient envie de venir te voir. Donc on en fait un album dans lequel on va peut-être trouver un peu trop d'instrumental, mais qui, dans ma tête, il se passait quelque chose sur scène. Il y avait des images, il y avait de la danse, il y avait tout ça. Donc c'était une belle expérience, mais difficile. Mais bien.
Et puis ça a donné ça. Et alors ça, c'est merveilleux.
Ça, c'est quoi?
C'est toi.
Ah.
Patricia Cass sur la route du week-end. Petite virgule musicale, juste pour nous accompagner. Laissons à respirer la musique. Ça va? Tu te sens bien?
Parfait, oui, voilà. Pas de problème.
Ça se sent.
Abel Korzeniowski. C'est le nom de...
Du violoncelliste ?
Non, de l'arrangeur qui est un chef d'orchestre en fait, qui a fait ses arrangements. Et en fait, je voulais travailler avec lui parce que il avait fait la bande son de Single Man avec Tom Ford.
J'avais
adoré la bande son.
D'accord.
Et il est polonais, il vit aux États-Unis, donc on a fait ça à Londres.
On écoute Patricia Cass. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes.
Nostalgie. On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann. Tous les vendredis soirs, 19h-20h. Et à tout moment en podcast sur l'appli Nostalgie.